Chapitre 2. Premières impressions. « Il est très instruit, Maggie, » dit Lucy. Elle était à genoux sur un tabouret au pied de sa cousine, après avoir placé cette personne au sombre costume sur un grand fauteuil de velours cramoisi. « Je suis sûre que tu l'aimeras. »« Je serai très difficile à contenter, » dit Maggie, en souriant et soulevant une des longues boucles de cheveux de Lucy, afin que le soleil pût briller au travers. Un monsieur qui se croit assez bon pour Lucy doit s'attendre à être sévèrement critiqué. En vérité, il est beaucoup trop bon pour moi. Et quelquefois, quand il n'est pas là, je pense presque qu'il n'est réellement pas possible qu'il m'aime. Mais je ne puis en douter quand il est près de moi, quoique je ne puisse supporter que quelqu'un d'autre que toi connût mes sentiments à son égard, Maggie. Oh, alors, si je les désapprouve, tu pourrais y renoncer. « Puisque vous n'êtes pas encore fiancé, » dit Maggie, avec une gravité badine. « Je préférerais ne pas l'être. Quand les gens sont fiancés, ils pensent à se marier promptement, » dit Lucy, trop entièrement préoccupée pour prendre garde à la plaisanterie de Maggie. « Et j'aimerais que tout continuât encore longtemps comme à présent. Quelquefois, j'ai vraiment peur que Stephen ne me dise qu'il a parlé à papa. Et d'après un mot que papa a laissé échapper l'autre jour, je suis sûr que lui et M. Guest s'y attendent. Les sœurs de Stephen sont très polies pour moi maintenant. Au commencement, je crois que cela ne leur plaisait pas qu'ils s'occupaient de moi, et c'était naturel. Il semble invraisemblable que je doive jamais vivre dans un si bel endroit que la maison du parc, une petite créature insignifiante comme moi. Mais on ne s'attend pas à ce que les gens soient grands en proportion des maisons qu'ils habitent, comme les colimaçons, dit Maggie en riant. « Je t'en prie, est-ce que les sœurs de M. Guest sont des géantes ?»« Oh non, et pas belles, c'est-à-dire pas très belles, » dit Lucy, se repentant à moitié de cette remarque peu charitable. « Mais il est, lui, du moins on le trouve généralement, très beau. »« Quoique tu sois incapable de partager cette opinion ?»« Oh, je ne sais pas, » dit Lucy, rougissant depuis le front jusqu'au cou. « C'est un mauvais système de vanter d'avance. Tu seras peut-être désappointé. » Mais je lui ai préparé une charmante surprise. Je pourrais joliment me moquer de lui. Je ne te dirai pas ce que c'est, pourtant. » Lucy se releva et alla à une petite distance, penchant un peu la tête de côté, comme si elle avait posé Maggie pour un portrait et qu'elle voulut juger de l'effet général. « Tiens-toi debout un moment, Maggie. »« À quoi t'amuses-tu maintenant ?» dit celle-ci, qui, souriant languissamment, se leva de son fauteuil et abaissa les yeux sur sa délicate et aérienne cousine, dont le corps était enveloppé d'irréprochables draperies de soie et de crêpes. Lucy conserva son attitude scrutatrice une minute ou deux, en silence, et dit ensuite « Je ne puis comprendre quel sortilège il y a en toi, Maggie, qui fait que tu paraisses charmante dans de chétifs vêtements. Quoique, en réalité, il te faille un nouveau costume à présent. Mais sais-tu que la nuit dernière, j'essayais de te voir dans un beau costume à la mode, et malgré moi, ce vieux mérinos souple revenait toujours comme la seule chose qui t'alla vraiment bien. Je voudrais bien savoir si Marie-Antoinette paraissait de beaucoup plus noble quand sa robe lui couvrait les épaules. Pour moi, si je portais quelque chose de chétif, on ne ferait pas la moindre attention à moi. J'aurais l'air d'un vrai chiffon. Oh, tout à fait, dit Maggie avec une gravité moqueuse. Tu serais exposé à être balayé avec les toiles d'araignée et la poussière du tapis, et à te trouver sous la grille de la cheminée comme Cendrillon. Puis-je m'asseoir à présent ? Oui, tu le peux, fit Lucy en riant. Puis, avec un air de réflexion sérieuse, et détachant sa grande broche de jais, « Mais il faut changer de broche, Maggie. Ce petit papillon a l'air ridicule sur toi. » Mais cela ne détruira-t-il pas cette harmonie de mesquinerie dans l'ensemble de mon costume ? Dit Maggie, s'asseyant avec soumission, tandis que Lucy, qui s'agenouillait de nouveau, détachait le papillon dédaigné. Je voudrais que ma mère fût de ton opinion, car elle se lamentait hier au soir de ce que ceci fut ma meilleure robe. J'ai économisé mon argent pour payer quelques leçons. Je n'aurai jamais une meilleure place si je n'acquiers pas davantage de talent. Maggie poussa un léger soupir. « Allons, ne reprends pas cet air triste, » dit Lucy, en plaçant sa grande broche au-dessous du beau cou de Maggie. « Tu oublies que tu as laissé là-bas cette horrible salle de classe et que tu n'as plus à raccommoder des vêtements de petite fille. » « Oui, » dit Maggie, il en est de moi comme je pensais qu'il devrait en être du pauvre ours blanc que j'ai vu à la foire. Je jugeais qu'il devait être devenu si stupide par l'habitude de se balancer en avant et en arrière dans cette étroite cage qu'il continuerait à le faire si on le mettait en liberté. On prend la mauvaise habitude d'être malheureux. Mais je te mettrai un régime de plaisir qui te fera perdre cette mauvaise habitude, dit Lucy, piquant par distraction le papillon noir à son propre col, tandis que ses yeux se portaient affectueusement sur ceux de Maggie. « Cher petit bijou, dit Maggie, dans un de ses élans d'admiration aimante, tu jouis tellement du bonheur des autres que je crois que tu pourrais te passer d'en avoir pour toi-même. « Je n'ai jamais été éprouvée de cette manière, dit Lucy. J'ai toujours été si heureuse. Je ne sais pas si je pourrais supporter beaucoup de chagrin. Je n'en ai jamais eu avant la mort de ma pauvre maman. Toi, Maggie, tu as supporté des épreuves, et je suis sûr que tu ressens pour les autres tout autant que je puis le faire. Non, Lucy, dit Maggie en secouant lentement la tête, je ne jouis pas de leur bonheur comme tu le fais. Autrement, je serais plus satisfaite. J'ai du bon vouloir pour eux quand ils sont dans l'affliction. Et cependant, je me prends en haine parce que je suis quelquefois fâchée à la vue de gens heureux. Je crois que je deviens pire en devenant plus âgé, plus égoïste. Cela me paraît terrible. Allons, Maggie, dit Lucy d'un ton de remontrance. Je ne crois pas un mot de cela. Ce n'est qu'une triste illusion, venant de ce que tu es abattu par une vie monotone et ennuyeuse. Peut-être est-ce cela, dit Maggie, écartant résolument les nuages de sa figure par un brillant sourire et se renversant en arrière dans son fauteuil. Peut-être cela vient-il du régime de l'école, du pudding de riz à l'eau, assaisonné de pinoc. Espérons que cela cédera devant les excellents flancs de ma mère et ce charmant Jeffrey Crayon. Maggie prit le sketchbook qui était près d'elle sur la table. « Suis-je en état d'être vue avec cette petite broche ?» dit Lucy en s'approchant de la cheminée pour en voir l'effet dans la classe. « Oh non, Monsieur Guest va être obligé de sortir du salon s'il te voit ainsi. Je t'en prie, va vite en mettre une autre. » Lucy quitta précipitamment la chambre, mais Maggie n'en prit point occasion d'ouvrir le livre. Elle le laissa retomber sur ses genoux, et ses yeux se portèrent à la fenêtre, d'où elle pouvait voir briller le soleil sur les riches touffes de fleurs printanières et sur les longues haies de laurel, et au-delà de la nappe argentée de la chère flosse, qui, à cette distance, semblait dormir d'un repos matinal. Les doux et frais parfums du jardin entraient par la fenêtre, et les oiseaux voltaient et se reposaient en gazouillant et chantant. Toutefois, les yeux de Maggie commençaient à se remplir de larmes. La vue de ces anciens lieux lui avait rappelé une foule de souvenirs si pénibles que même la veille, elle n'avait pu se réjouir de l'aisance rendue à sa mère et de l'amitié fraternelle de Tom, qu'ainsi que nous nous réjouissons de bonnes nouvelles reçues d'amis éloignés plutôt que de la présence d'un bonheur que nous partageons. La mémoire et l'imagination la pénétraient d'un sentiment de privation trop vif pour qu'elle pût goûter ce que lui offrait ce présent de courte durée. Son avenir, pensait-elle, serait probablement pire que son passé, car après ces années d'un renoncement accepté, elle en était revenue aux désirs impatients. Elle trouvait ses jours d'occupation sans intérêt de plus en plus insupportables. Le désir de la vie remplie et variée, pour laquelle elle soupirait et qu'elle désespérait de rencontrer, devenait de plus en plus impérieux. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la réveilla, et, essuyant ses larmes à la hâte, elle commença à feuilleter le livre. « Il est un plaisir, je sais, Maggie, auquel ton plus grand abattement ne résistera jamais, dit Lucy, commençant à parler dès son entrée. C'est la musique, et je compte t'en faire faire une vraie débauche. Je veux que tu te remettes à jouer, ce que tu faisais bien mieux que moi quand nous étions à Laysom. Tu aurais ri de me voir jouer et rejouer des airs pour les petites filles quand je les faisais étudier, dit Maggie, dans le simple désir de toucher encore à ces chères notes. Mais je ne sais si je pourrais jouer à présent quelque chose de plus difficile que, loin de moi, triste souci. Je me rappelle dans quel sauvage état de joie tu te mettais quand les chanteurs de ballades faisaient leur ronde, dit Lucy en prenant sa broderie, et nous pourrions entendre tous ces vieux airs que tu aimais tant, si j'étais certaine que tu n'eusses pas la même manière de penser que Tom sur certains sujets. J'aurais supposé qu'il n'y avait rien dont tu ne pusses être plus sûre, dit Maggie en souriant. J'aurais dû plutôt dire un sujet particulier. Parce que, si tu penses comme lui à cet égard, il nous manquera notre troisième voix. St. Ogg's est si misérablement dépourvu de musiciens amateurs. Il n'y a en réalité que Stephen et Philip Wakeham qui sachent assez de musique pour être en état de chanter une partie. Lucy leva les yeux de dessus son ouvrage en disant cette dernière phrase et s'aperçut d'un changement dans la figure de Maggie. « Cela te fait-il de la peine d'entendre prononcer ce nom, Maggie? S'il en est ainsi, je ne te parlerai plus de lui. Je sais que Tom ne veut pas le voir s'il peut l'éviter. » « Je n'ai pas la même manière de sentir que Tom à ce sujet, » dit Maggie, en se levant et allant à la fenêtre, comme pour mieux jouir du paysage. « J'ai toujours aimé Philip Wakeham depuis que j'étais petite fille et que je l'ai vu à Lorton. Il fut si bon quand Tom se blessa le pied. « Oh, que j'en suis contente, » dit Lucy. « Alors cela ne te fera rien qu'il vienne quelquefois, et nous pourrons faire beaucoup plus de musique que cela ne serait possible sans lui. » J'aime beaucoup ce pauvre Philippe. Seulement je voudrais qu'il ne fût pas si tristement préoccupé de sa difformité. Je suppose que c'est ce qui le rend si morose et quelquefois mordant. Cela fait certainement beaucoup plus de pitié de voir ce chétif individu, contrefait et pâle, au milieu de personnes grandes et fortes. Mais, Lucy, dit Maggie, essayant d'arrêter ce petit courant de babil. Ah, voilà la cloche de la porte. « Ce doit être Stephen, » continua Lucy, sans faire attention au faible effort de Maggie pour parler. « Une des choses que j'admire le plus en Stephen, c'est qu'il est devenu plus intime avec Philip que personne. » Il était maintenant trop tard pour que Maggie pût parler. La porte du salon s'ouvrait, et Minnie grondait déjà tout doucement à l'arrivée d'un grand monsieur qui alla droit à Lucy et lui prit la main avec un regard aussi respectueux que tendre. Et un ton d'interrogation qui semblait indiquer qu'il ne s'apercevait pas qu'il y eût là quelque autre personne. « Permettez-moi de vous présenter à ma cousine Miss Tulliver, » dit Lucy, se tournant avec un malin plaisir vers Maggie, qui s'approcha en quittant la fenêtre la plus éloignée. « Voici M. Stephen Guest. » Au premier instant, Stephen ne put cacher son étonnement à la vue de cette grande nymphe aux yeux foncés avec sa couronne de cheveux noirs de jais. L'instant après, Maggie eut pour la première fois de sa vie le sentiment de recevoir le tribut d'une admiration et d'une profonde salutation de la part d'une personne devant laquelle elle éprouvait elle-même de la timidité. Cette nouvelle situation lui fut très agréable, si agréable qu'elle effaça presque l'émotion qu'elle venait d'avoir au sujet de Philip. Il y avait un nouvel éclat dans ses yeux et une nuance qui allait très bien à ses joues lorsqu'elle s'assit. « J'espère que vous trouvez parfaite la ressemblance que vous avez dessinée avant-hier, » dit Lucy avec un petit rire de triomphe. Elle jouissait de la confusion de son adorateur. L'avantage était ordinairement de son côté à lui. « Votre cousine vous a peinte à moi d'une manière tout à fait trompeuse, » Miss Tulliver, dit Stephen en s'asseyant près de Lucy et se baissant pour jouer avec Minnie, ne regardant Maggie qu'à la dérobée. « Elle m'a dit que vous aviez les cheveux clairs et les yeux bleus. » « Non, c'est vous-même qui l'avez dit, » dit Lucy en le reprenant. « Je me suis seulement abstenu de détruire votre confiance en votre don de divination. »« J'aimerais à pouvoir toujours me tromper de cette manière, » dit Stephen, « et à trouver la réalité tellement plus belle que mes idées préconçues. »« Maintenant, vous vous êtes montré à la hauteur de la situation, » dit Maggie, « et vous avez dit ce que la circonstance vous forçait d'exprimer. » Elle lui lança un léger regard de défi. Il était clair pour elle qu'il avait d'avance fait d'elle un portrait satirique. Lucy avait dit qu'il avait de la disposition à la moquerie, et Maggie avait mentalement ajouté, et passablement d'inclination à être content de lui-même. Il y a là une dose alarmante d'orgueil, fut la première pensée de Stephen. La seconde, quand Maggie se fut penchée sur son ouvrage, fut « J'aimerais bien qu'elle me regardât encore. » La suivante fut de répondre « Je suppose que toutes les phrases de pur compliment ont leur raison d'être vraies. Un homme est quelquefois reconnaissant quand il dit « Je vous remercie ». C'est assez désagréable pour lui de devoir pour cela employer les mêmes mots avec lesquels il refuse une invitation déplaisante. Ne le trouvez-vous pas, Miss Tulliver ? Non, dit Maggie, le regardant directement. Si nous employons des mots ordinaires dans une grande occasion, ils en sont d'autant plus frappants. Parce qu'on sent immédiatement qu'ils ont une signification particulière, ainsi que de vieilles bannières ou des habits de tous les jours suspendus dans un lieu sacré. Alors mes compliments devraient être éloquents en voyant combien les paroles sont au-dessous de la circonstance, dit Stephen. ne sachant réellement pas très bien ce qu'il disait, tandis que Maggie le regardait. Aucun compliment ne peut être éloquent, à moins d'être l'expression de l'indifférence, dit Maggie en rougissant un peu. Lucy fut presque alarmée. Elle pensa que Stephen et Maggie ne se plairaient pas mutuellement. Elle avait toujours redouté que Maggie ne parût trop singulière et trop instruite pour plaire à ce monsieur difficile. « Ma chère Maggie, dit-elle en s'interposant, tu as toujours prétendu que tu aimais à être admirée, et maintenant tu me sembles fâchée de ce que quelqu'un se hasarde à t'admirer. » « Pas du tout, dit Maggie, je n'aime que trop à sentir que je suis admirée, mais les compliments ne me le font jamais sentir. »« Je ne vous referai jamais un compliment, Miss Tulliver, dit Stephen. » « Je vous remercie, ce sera une preuve de respect. » Pauvre Maggie, elle était si peu habituée à la société qu'elle ne pouvait rien prendre comme une banalité, et n'avait de sa vie parlé des lèvres seulement, en sorte qu'elle doit nécessairement paraître absurde à des dames plus expérimentées par l'importance excessive qu'elle mettait à des incidents ordinaires. Mais elle eut elle-même le sentiment intime d'être un peu ridicule dans cette occasion. À la vérité, elle n'aimait pas en théorie les compliments et avait une fois dit avec impatience à Philippe qu'elle ne voyait pas pourquoi on disait aux femmes avec un sourire qu'elles étaient belles, plus qu'on ne dit aux hommes âgés qu'ils sont respectables. Pourtant, se fâcher autant contre une simple banalité venant de la part d'un étranger comme M. Stephen Guest et s'inquiéter de ce qu'il avait parlé d'elle légèrement avant de l'avoir vue était certainement peu raisonnable. Et dès qu'elle fut silencieuse, elle commença à avoir honte d'elle-même. Il ne lui vint point à l'esprit que son irritation était due à l'émotion agréable qu'elle avait éprouvée auparavant. De même que lorsque vous êtes satisfait d'une sensation de douce chaleur, une innocente goutte d'eau froide en tombant sur vous peut vous faire éprouver une violente douleur. Stephen était trop bien élevé pour ne pas paraître ignorer que la conversation précédente pût avoir paru embarrassante, et commença tout de suite à parler de sujets généraux, demandant à Lucy si elle savait quand la vente de charité aurait enfin lieu, et s'il y avait quelque espoir qu'elle pût accorder ses regards à des objets plus capables de reconnaissance que les fleurs de laine qui naissaient sous ses doigts. « Un des jours du mois prochain, je crois, dit Lucy. Mais vos sœurs travaillent pour cela beaucoup plus que moi. Elles auront la plus grande boutique. Oui, mais elles s'occupent de leurs travaux dans leur salon particulier. » Où je ne vais pas les déranger. Je vois que vous ne vous adonnez pas au vice à la mode des ouvrages de fantaisie, Miss Tulliver, dit Stephen en regardant le travail de simple couture de Maggie. Non, je ne puis rien faire de plus difficile, ni de plus élégant que de la lingerie. Et ta simple couture est si belle, Maggie, dit Lucy, que je pense t'en demander quelques échantillons comme ouvrage de fantaisie. Ton admirable couture est un mystère pour moi. Tu avais anciennement l'air d'avoir un tel dégoût pour cet ouvrage. C'est un mystère facile à expliquer, ma chère, dit Maggie, levant tranquillement les yeux. La simple couture était la seule chose avec laquelle je pusse gagner quelque argent. Aussi ai-je été obligée de tâcher de la bien faire. Lucy, bonne et simple comme elle l'était, ne put s'empêcher de rougir un peu. Elle n'aimait pas tout à fait que Stephen connût cela. Maggie aurait pu ne pas en parler. Peut-être y avait-il quelque fierté dans cet aveu. La fierté de la pauvreté qui ne veut pas avoir honte d'elle-même. Mais si Maggie avait été la reine des coquettes, elle aurait difficilement pu inventer un moyen de donner plus de piquant à sa beauté aux yeux de Stephen. Je ne crois pas que de la simple couture et de la pauvreté avouée eussent beaucoup fait à elle seule. Mais aidée de la beauté, elle rendait Maggie encore plus différente des autres femmes qu'elle ne l'avait paru d'abord. « Mais je puis tricoter, Lucy, ajouta sa cousine, si cela peut être de quelque utilité pour votre bazar. « Oh, certainement très utile. Je te mettrai à l'œuvre demain, avec de la laine écarlate. Mais, ajouta-t-elle en se tournant vers Stephen, votre sœur est la personne la plus à envier, avec son talent de modeler. Elle fait, entièrement de mémoire, un buste étonnamment ressemblant du révérend docteur Ken. Oui, si elle peut se rappeler de faire les yeux très rapprochés et d'éloigner beaucoup les coins de la bouche l'un de l'autre, la ressemblance peut difficilement manquer d'être frappante pour St. Ogg's. À présent, c'est très méchant de votre part, dit Lucy, ayant l'air un peu blessée. Je ne pensais pas que vous dussiez parler sans respect du docteur Ken. » Ai-je dit quelque chose d'irrespectueux du révérend Ken ? Le ciel m'en préserve. Mais je ne suis pas obligé de respecter un buste diffamatoire qui le représente. Je considère Ken comme un des individus les plus remarquables du monde. Je ne me préoccupe pas beaucoup du grand chandelier qu'il a placé sur la table de communion, et je ne gâterai pas ma santé par des prières trop matinales chaque jour. Mais c'est le seul homme que j'ai connu personnellement qui me paraisse avoir en lui quelque chose du véritable apôtre. Un homme qui a 800 livres par année et qui se contente de meubles de sapin et de bœuf bouilli parce qu'il donne les deux tiers de son revenu. Il a fait une très belle action en prenant chez lui ce pauvre jeune Grattan qui a tué sa mère par accident. Il sacrifie plus de temps qu'un homme moins occupé ne pourrait le faire pour empêcher ce pauvre garçon de tomber dans une maladie mentale à ce sujet. Il le prend constamment avec lui à ce que je vois. « C'est superbe, » dit Maggie, qui avait laissé tomber son ouvrage et écoutait avec un vif intérêt. « Je n'ai jamais connu personne qui fît de telles choses. » Et on admire cette manière d'agir de Ken, dit Stephen, d'autant plus que ses habitudes en général sont plutôt froides et sévères. Il n'y a rien en lui de mielleux ni d'apprêté. « Oh, je crois que c'est un homme parfait, » dit Lucy avec un joli enthousiasme. « Non, je ne suis pas de votre avis, » dit Stephen en secouant la tête avec une gravité satirique. « Allons, quel défaut pouvez-vous lui trouver ? Il est anglican. »« Eh bien, ce sont les bons principes, je pense, » dit Lucy gravement. « Voilà qui décide la question au point de vue abstrait, » dit Stephen, « mais pas au point de vue parlementaire. Il a amené les dissidents et les gens d'église à s'entendre. Et un aspirant sénateur comme moi, des services duquel le pays a un si grand besoin, le trouvera incommode quand il se mettra sur les rangs pour avoir l'honneur de représenter St. Ogg's au Parlement. « Pensez-vous réellement à cela ?» dit Lucy, les yeux brillants de fierté et de plaisir, et oubliant les arguments en faveur des intérêts de l'anglicanisme. « Parfaitement. Dès que l'esprit public et la goutte du vieux M. Leyburn engageront celui-ci à se retirer. Mon père a pris la chose à cœur, et des dents comme les miens, vous savez, ici, Stephen se redressa et passa sa grande main blanche sur ses cheveux en jouant l'admiration de lui-même. Des dons comme les miens engagent à une grande responsabilité. Ne le trouvez-vous pas, Miss Taleva ? Oui, dit Maggie en souriant, mais sans lever les yeux. Une telle éloquence et un tel empire sur soi-même ne devraient pas se dépenser entièrement dans des réunions privées. Ah, je vois quelle pénétration vous avez, dit Stephen. Vous avez déjà découvert que je suis babillard et impudent. C'est ce dont les personnes superficielles ne s'aperçoivent jamais, grâce à mon habileté, je suppose. Elle ne me regarde pas quand je parle de moi-même, pensa-t-il, pendant que les auditrices riaient. Il faut essayer d'autres sujets. Lucy avait-elle l'intention d'assister le lendemain à la réunion du club des livres, fut la question suivante. Puis vint sa recommandation de choisir la vie de Cooper par Southey. À moins de désirer paraître aimer les sciences et étonner les dames de St. Ogg's en votant pour un des traités de Bridgewater. Naturellement, Lucy désira connaître ce qu'étaient ces effrayants livres scientifiques. Et comme il est toujours agréable de perfectionner l'esprit des dames en leur parlant à l'aise de sujets dont elles ne savent rien, Stephen devint tout à fait brillant en rendant compte d'un traité de Buckland qu'il venait de lire. Il en fut récompensé en voyant Maggie laisser tomber son ouvrage et devenir peu à peu si absorbée par cette étonnante histoire géologique qu'elle restait à la regarder, penchée en avant, les bras croisés et avec une entière absence du sentiment de son être, comme s'il eût été le professeur le plus goûté et elle un écolier au duvet naissant. Il fut si fasciné par ce puissant et limpide regard qu'il oublia à la fin d'en détourner de temps en temps les yeux vers Lucy. Mais la douce enfant, elle, se réjouissait seulement de ce que Stephen prouvait à Maggie combien il était instruit, et qu'après tout, ils seraient certainement bons amis. « Je vous apporterai le livre, voulez-vous, Miss Taleva ?» dit Stephen, quand il trouva que le courant de ses souvenirs commençait à s'épuiser. « Il y a plusieurs illustrations que vous serez bien aise de voir. »« Oh, je vous remercie, » dit Maggie, qui rougit tout en retrouvant le sentiment d'elle-même à cette interpellation directe et en reprenant son ouvrage. « Non, non, » interrompit Lucy, « je vous défends de plonger Maggie dans les livres. Je ne pourrai plus l'en sortir, et je désire qu'elle passe de délicieuses journées à ne rien faire, si ce n'est aller sur l'eau, causer, monter à cheval et se promener en voiture. Voilà les vacances dont elle a besoin. À propos, dit Stephen en regardant à sa montre, si nous faisions une promenade en barque sur la rivière maintenant. La marée nous favorisera pour remonter à Tofton et nous reviendrions à pied. C'était une délicieuse promenade pour Maggie, car il y avait des années qu'elle n'était allée sur la rivière. Quand elle fut sortie pour mettre son chapeau, Lucy resta en arrière sous un prétexte quelconque et saisit l'occasion de dire à Stephen que Maggie n'avait point d'objection à voir Philip, en sorte qu'il était dommage qu'elle eût envoyé un billet l'avant-veille. Mais elle lui en écrirait un autre le lendemain pour l'inviter. « J'irai le voir et le persuader, dit Stephen, et je l'amènerai avec moi le soir, voulez-vous ? Mes sœurs désireront venir vous voir quand je leur dirai que votre cousine est arrivée, et je leur laisserai le champ libre pour la matinée. » « Oh oui, amenez-le, dit Lucy. Et vous aimerez Maggie, n'est-ce pas ? Ajouta-t-elle d'un ton suppliant. « N'est-ce pas une chère créature de noble tournure ?»« Trop grande, dit Stephen, en abaissant les yeux sur elle en souriant, et un peu trop ardente. Ce n'est pas mon type de femme, vous savez. » Les hommes, vous ne l'ignorez pas, sont portés à faire aux femmes ces confidences imprudentes de l'opinion peu favorable qu'ils ont de leurs belles amies. Voilà pourquoi tant de femmes ont l'avantage de savoir qu'elles sont tenues en secret pour repoussantes par des hommes qui leur ont offert un ardent amour qu'ils ne ressentaient pas. Et rien ne pourrait mieux faire connaître le caractère de Lucy que sa croyance implicite à ce que disait Stephen et sa détermination que Maggie n'en dut rien savoir. Mais vous, qui êtes guidé par une logique plus conséquente que ses paroles, vous avez déjà prévu, comme une suite directe de cette opinion défavorable de Stephen, qu'en descendant vers le hangar au bateau, il calculait, à l'aide d'une vive imagination, que Maggie devrait lui donner au moins deux fois la main en raison de cet agréable projet de navigation, et qu'un monsieur qui désire que les dames le regardent est avantageusement placé pour cela en se faisant leur notonnier. Comment donc ? Serait-il tombé amoureux à première vue de cette surprenante fille de M. Tarleva ? Non, certainement. On n'entend jamais parler de telle passion dans la vie réelle. Outre cela, il était déjà amoureux et déjà à moitié fiancé à la plus chère petite créature du monde. Et ce n'était pas un homme à se rendre ridicule de cette manière. Mais quand on a 25 ans, on n'a pas des doigts de marbre pour être tout à fait insensible au contact de ceux d'une belle personne. Il était parfaitement naturel et sans danger d'admirer la beauté et de jouir de la voir, au moins dans les circonstances présentes. De plus, il y avait réellement quelque chose de très intéressant chez cette jeune fille, avec sa pauvreté et ses malheurs. Puis, cela faisait plaisir de voir cette amitié entre les deux cousines. En général, Stephen admettait qu'il n'aimait pas les femmes offrant quelques singularités de caractère. Mais ici, cette singularité paraissait vraiment d'une espèce supérieure. Pourvu qu'on ne soit pas obligé d'épouser de telles femmes, elles mettent en réalité une certaine variété dans les relations sociales. Pendant le premier quart d'heure, Maggie ne répondit pas à l'espérance de Stephen. Ses yeux étaient trop occupés à revoir ces rives qu'elle connaissait si bien. Elle se sentait isolée, séparée de Philip, la seule personne qui eût jamais paru avoir pour elle un amour dévoué, comme elle avait toujours désiré l'inspirer. Mais bientôt, le mouvement cadencé des rames attira son attention, et elle pensa qu'elle aimerait aussi à savoir ramer. Cela la fit sortir de sa rêverie, et elle demanda si elle pourrait apprendre à manier une rame. Elle avait, il paraît, beaucoup à apprendre, et elle devenait ambitieuse. L'exercice l'excita et lui fit trouver grand plaisir à cette leçon. « Je ne serai pas contente que je n'aie appris à me servir des deux rames et à vous conduire, vous et Lucy, » dit-elle, l'air très animé quand elle sortit du bateau. Maggie, vous le savez, était sujette à oublier ce qu'elle faisait, et elle avait mal choisi son moment pour faire cette remarque. Son pied glissa, mais heureusement M. Stephen Guest lui tenait la main et la soutint par une vigoureuse étreinte. « Vous ne vous êtes pas blessé, j'espère, » dit-il, en se baissant pour regarder son visage avec inquiétude. C'était vraiment charmant d'être soigné de cette manière gracieuse par quelqu'un de plus grand et de plus fort que soi-même. Jamais auparavant, Maggie n'avait éprouvé la même sensation. Quand ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent au salon l'oncle et la tante Paulette assis avec Madame Taleva, et Stephen s'éloigna à la hâte en demandant la permission de revenir le soir. « Et, je vous en prie, rapportez avec vous le livre de Purcell que vous avez emporté, » dit Lucy. « Je désire que Maggie entende vos meilleurs airs. » Tante Paulette, pensant que Maggie serait probablement invitée avec Lucy à la maison du parc, fut très choquée de la mesquinerie de son costume, qui, vu par la société de St. Ogg's, serait un déshonneur pour la famille, et demandait qu'on y remédiât promptement. La consultation sur ce qui réussirait le mieux pour atteindre ce but, en puisant dans le superflu de la garde-robe de Madame Paulette, fut suivie avec beaucoup d'intérêt par Lucy et Madame Taleva. Maggie devait réellement avoir un costume du soir aussitôt que possible, et elle était à peu près de la même taille que sa tante. « Mais elle est beaucoup plus large d'épaule que moi. »« C'est très incommode, » dit Madame Paulette, « car sans cela, elle pourrait porter, sans y rien changer, cette belle robe de satin noir broché que j'ai. » « Et ses bras sont si forts, » ajouta-t-elle tristement, en soulevant le beau bras rond de Maggie. « Elle ne pourra jamais mettre mes manches. »« Oh, ne vous en inquiétez pas, ma tante. Je vous en prie, envoyez la robe, » dit Lucy. « Je ne désire pas que Maggie ait des manches longues, et j'ai une quantité de dentelle noire pour les garnir. Ses bras paraîtront superbes. »« Les bras de Maggie sont d'une jolie forme, » dit Madame Taleva. « Ils sont comme étaient les miens. Seulement les miens n'étaient pas bruns. Je voudrais qu'elle eût la peau de notre famille. » « C'est égal, chère tante, » dit Lucy en caressant les épaules de Madame Taleva. « Vous n'entendez rien à cela. Un peintre trouverait superbe le teint de Maggie. » « Ça se peut, ma chère, » dit Madame Taleva avec soumission. « Vous en savez plus que moi. Seulement, quand j'étais jeune, une peau brune n'était pas bien vue parmi les gens bien placés. » « Non, » dit l'oncle Paulette, qui prenait beaucoup d'intérêt à la conversation des dames, tout en suçant ses pastilles. Pourtant, il y avait une chanson sur la fille brune couleur de noix. Aussi, je crois qu'elle était folle. Kate la folle. Mais je ne me le rappelle pas très bien. « de grâce, » dit Maggie en riant, mais avec impatience. « Je crois que ce sera ma mort, et celle de ma peau brune, si l'on en parle toujours autant. »